Géopolitique. Éric Bataillon.
Bonjour. Depuis bientôt 40 ans, le Kurdistan occupe le devant de la scène moyen-orientale, aussi bien en Irak, dans le combat des Peshmerga contre le régime de Bagdad, qu'en Turquie, dans sa recherche d'autonomie face aux différents régimes politiques à Ankara. Il semble pourtant que l'histoire se soit accélérée ces dernières années, d'abord avec la chute de Saddam Hussein en Irak en 2003, puis depuis 2011 avec le début de la guerre civile en Syrie. De sorte qu'aujourd'hui, l'hypothèse d'un État kurde devient beaucoup plus plausible. Restent toutefois de nombreux obstacles à lever, de nombreuses interrogations en suspens. Y a-t-il une réelle identité kurde avec un vrai territoire et des valeurs et modes de vie partagés? Cette identité est-elle homogène et n'y a-t-il pas de fortes tensions entre certaines communautés kurdes qui sont, rappelons-le, réparties sur quatre pays principaux, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran? Une autonomie dans chacun de ces pays sur le modèle irakien est-elle possible et si oui, sur quelle base politique et économique? Enfin, le Kurdistan est-il aujourd'hui un élément de la stabilité régionale ou au contraire de son instabilité? Avec nous en studio pour en débattre, Hocham Daoud, bonjour.
Bonjour.
Ancien directeur de l'antenne de l'Institut français du Proche-Orient en Irak. J'ajoute que vous rentrez d'un séjour à Erbil, la capitale de la province autonome kurde d'Irak. Timur Muhyiddin, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, où vous enseignez la littérature turque et ottomane. Vous dirigez plusieurs collections, Lettres turques chez Actes Sud et Littérature comparée chez Petra. Et par téléphone depuis Istanbul, où vous êtes en déplacement, Maria Fantapi, bonjour.
Bonjour.
Analyste senior à l'International Crisis Group, spécialiste de l'Irak et plus particulièrement du Kurdistan irakien. Vous avez également été membre de l'Institut du Proche-Orient à Erbil et je précise que votre étude sur la jeunesse kurde, dont nous parlerons tout à l'heure, a été soutenue par l'Institut d'études régionales IRIS de l'Université américaine de Souleymania. Alors, on estime généralement que 36 millions de personnes constituent la communauté kurde répartie sur quatre pays principaux, l'est de la Turquie, le nord de la Syrie, le nord de l'Irak et le nord-ouest de l'Iran, avec quelques îlots de peuplement en Arménie, en Géorgie, Azerbaïdjan, Turkménistan, Kyrgyzstan et Kazakhstan. Hocham Daoud, par-delà ces territoires, qu'est-ce qui fait qu'il y a une identité kurde manifeste? Quelles sont les valeurs traditionnelles chères aux Kurdes?
C'est un sentiment de personne et sentiment qui traverse un groupe de gens qui se sentent kurdes. Ils parlent une langue, ils se projettent dans une histoire longue et ils partagent plus ou moins une culture, que ce soit matériel et immatériel, parce qu'ils se trouvent dans un espace. Est-ce que cela suffira pour créer une identité à ce moment-là reconnue, étatique, avec une projection internationale? Bon, il y avait culturellement, il y avait historiquement un espace qui s'appelait Kurdistan. Mais il n'y a jamais eu dans l'histoire un État qui s'appelait Kurdistan. Et puis, vous savez, l'histoire, il traverse, il sculpte la région. Et puis, il différencie les gens par leur comportement, leur attachement, etc. Prenez depuis un siècle, les Kurdes, ils sont partagés entre quatre États. Quatre cultures différentes, étatiques, économies différentes, puis relations au niveau international différentes. C'est créé quand même des distinctions à l'intérieur de ce groupe. Néanmoins, à chaque soubresaut, à chaque moment où il y a un choc frontal profond, on voit qu'il y a une lame de fond qui traverse le Kurde, que ce soit en Turquie ou en Irak. Il s'affirme qu'on Kurde. On l'a vu à Kobané, que c'est le Kurde irakien, se sont portés solidaires avec le Kurde du nord de la Syrie. Dans les années 40, c'est le Kurde d'Irak aussi qu'ils ont parti combattre avec le Kurde d'Iran à Mahabad. Et ainsi de suite, on voit le Kurde de Turquie qui vient de ce côté-ci, etc. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer la frontière, la barrière, la différenciation, la distinction. Mais quand même, au-dessus de tout cela, il y a un sentiment qui traverse. Vous savez, c'est très difficile quand on définit quelque chose qui s'appelle une identité ethnique. On partage certains idéaux, mais est-ce que ça suffit pour affirmer en tant que nation, avec une projection, un ancrage territorial, un point fixe, etc. Donc, j'espère qu'on va débattre autour de ça.
Timur Muhyiddin, sur le plan culturel, justement, les Kurdes produisent-ils une littérature particulière qui les distingue de leurs voisins?
Je voudrais d'abord dire, puisque dans votre paysage des zones peuplées par les Kurdes, il faudrait ajouter les grandes villes de Turquie, et en particulier Istanbul et Ankara, en réalité, où s'est développée cette renaissance kurde, enfin pour le Kurmanje, puisqu'il y a aussi un problème, enfin il y a une question de langue, il y a deux grandes langues, plus le Zazaki, qui est quand même une langue très proche, enfin en tout cas du même groupe linguistique. Donc oui, il y a une identité kurde culturelle et moderne, en réalité, ce qu'on oublie un petit peu, parce que c'est un phénomène relativement récent, mais pas si récent que ça, qui est bizarrement venu venue de Suède, où les Kurdes étaient réfugiés. La renaissance littéraire et particulièrement romanesque kurde est née à Stockholm, bizarrement, et revenue donc en Turquie, en Irak, en Syrie. Il y a aussi des romanciers assez importants. Je trouve ça assez intéressant en ce moment. On les traduit en Kurmanje. C'est-à-dire que les Kurdes se traduisent entre eux, se diffusent. Il y a une capitale culturelle, en réalité, qui est Diyarbakır. Donc la renaissance de cette ville est aussi un phénomène tout à fait fascinant.
Capitale culturelle en Turquie.
En Turquie, voilà.
Car il y a aussi une capitale culturelle en Irak, dans le Kurdistan irakien, qui est Souleymaniye.
Qui est Souleymaniye, tout à fait. Mais c'est plus ancien, d'une certaine manière, c'est plus établi. Cette renaissance, on va dire, ou cette réapparition de Diyarbakır comme centre kurde est tout à fait exceptionnelle, puisque l'État turc était tout à fait contre. Assez longtemps, ça fait 2 ans.
Alors, il y a une littérature qui réémerge, peut-on dire. Y a-t-il aussi des moments forts qui soudent cette communauté et qui montrent son identité ?
Moi, je dirais le névrose, le nouvel an, essentiellement, qui est souvent utilisé, d'ailleurs, on va dire, à gauche, par le PKK ou autre, comme un moment de démonstration aussi politique. Mais bon, plus profondément, c'est effectivement le vieux fond, on va dire, indo-européen des Kurdes qui est bien affirmé dans cette occasion-là.
Maria Fantapi, lorsqu'on est à Erbil, vous étiez il n'y a pas très longtemps, ou alors aussi à Souleymaniye, vous avez mené un certain nombre d'études. Qu'est-ce qui fait que l'on est sûr d'être dans un territoire kurde et pas ailleurs ?
Ce qui en fait crée la différence en fait, et qui nous montre d'être dans un territoire kurde, c'est d'être en fait la symbologie qui est manifestée partout. En fait, il y a dans ces villes du Kurdistan d'Irak, surtout chez la jeunesse, une grande volonté de montrer les signes, les symboles en fait du Kurdistan. Donc vous avez en fait tout un tas des drapeaux naturellement qui sont montrés de manière aussi obsessive partout dans les rues. Et c'est là, naturellement, c'est l'expression d'une volonté d'affirmer une identité d'un côté qui a été assassiné pendant les décennies sous les régimes de Saddam Hussein. Donc c'est ça, en fait. Mais aussi, il faut noter un autre élément qui est, en fait, chez la jeunesse aussi, cette façon de en fait, montrer les symboles de l'identité kurde, donc par exemple d'afficher les drapeaux kurdes partout, de les montrer, en fait. Ça, c'est aussi une réaction. Chez les jeunes kurdes, ces symboles sont devenus aujourd'hui les seuls moyens à travers lesquels en fait, l'identité kurde est vécue. Alors que la génération la plus ancienne au Kurdistan d'Irak a combattu une lutte armée contre Bagdad, aujourd'hui la jeunesse à Souleymaniye et à Erbil en fait, n'est pas forcément mobilisée dans la lutte armée. Et alors, ces symboles, comme par exemple les drapeaux ou portés des babies dans la fête des névroses, qui sont typiquement kurdes, deviennent les seuls moyens d'expression et d'affirmation de sa propre identité.
On reviendra sur la question de la jeunesse, notamment au Kurdistan irakien, tout à l'heure avec vous, Maria Fantapi. Hocham Daoud, vous disiez tout à l'heure qu'il y a effectivement, malgré tout, une diversité, par exemple, dans les langues, il y a au moins 2 langues, et aussi dans les religions qui sont pratiquées. Est-ce que ce n'est pas un élément, justement, qui vient à l'encontre de l'identité kurde, ou au contraire, est-ce que ça renforce cette identité kurde ?
Disons, il y a un débat entre le kurde et même entre les linguistes. Le kurde eux-mêmes, et c'est normal, ils disent nous avons 2 dialectes qui structurent, façonnent la parole kurde.
Il y a le Kurmanji dont vous parlez.
Le Kurmanji, etc. De l'extérieur, quand on voit cela, d'autres y vont plus loin. Peut-être nous sommes en face de quasiment 2 langues. Le fait qu'on traduit d'un dialecte à l'autre, le passage et la passerelle, des fois, c'est un peu difficile.
La deuxième langue est une langue qui est parlée plutôt dans le sud.
Ça qu'on appelle le Sorani.
Voilà.
Sorani, c'est
qui est arabisé, c'est ça ?
Non, avec moins de vocabulaire arabe ou emprunté à la personne, etc. Je dirais, en termes un peu techniques, moins influencé, peut-être, parce qu'il y avait une production littéraire dans la partie de Soran, ça veut dire Souleymaniye, etc., qu'il y a 2 siècles derrière lui. Donc, cela, ça fait que le dialecte sorani, si vous voulez, ou la langue, le dialecte sorani est beaucoup plus structuré, beaucoup plus en avance, beaucoup plus riche à ce moment-là, avec un panoplie de termes, de mots, d'expressions, de souplesse, beaucoup plus poussé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai quasiment 80% de la production littéraire kurde se trouve en dialecte sorani, même plus. Donc, ça, c'est la première chose sur la question de la différenciation. Bien évidemment, le kurde, il est vrai que quand il, ça communique avec les autres, et quand ils sont entre eux, c'est normal. La différence monte sur la surface. C'est la vie. Moi, je me différencie par rapport à ma ville natale, je me différencie par rapport à ma tribu, je me différencie par rapport à les dialectes, mais ils sont tous musulmans. Quasiment à 90%, ils sont de même rite. Ils sont sunnites.
Oui.
Et ils sont, la plupart du temps, ils sont chafaïtes. Il y a une petite minorité à 5 à 7% qui sont dans le sud du Kurdistan d'Irak, ils sont chiites. Bien sûr, il y a le groupe Zazaï.
Il y a quelques chrétiens aussi.
Il y a des chrétiens.
Chaldéens, assyriens.
Ça, c'est aussi compliqué. Les chrétiens, quand ils sont à l'intérieur de Kurdes, à ce moment-là, ils disent qu'ils sont chrétiens. Deux fois, quand ils sont en tant que collectif, en face de quelque chose de l'extérieur, ben ils disent, écoutez, nous sommes Kurdes, mais de religion chrétienne. Tout cela se joue d'identité, de posture, de positionnement. Assez souvent, ça aussi joue de stratégie. D'une manière générale, il y a un groupe kurde. D'une manière générale, on peut dire, au niveau religion, c'est homogène. Au niveau spécial, il y a une continuité. Au niveau étatique, c'est partagé. Au niveau de tradition, bien sûr, ça commence à différencier. Au niveau linguistique dialectal, ça prend des choses qui s'éloignent l'un de l'autre. Et puis, il y a des traditions qui s'éloignent avec la modernité. Les Kurdes de Turquie, ils sont beaucoup plus dirigés vers Ankara, vers Istanbul, vers l'Allemagne, l'Europe. Tandis que les Kurdes d'Irak, historiquement, ils étaient beaucoup plus dirigés vers l'Iran, vers la partie arabe de l'Irak, vers la Syrie, etc. Donc, c'est la géographie qui fait aussi la physionomie de la région.
Alors justement, Timur Mudin, est-ce que cette cohésion apparente de l'ensemble kurde, d'une sorte de Kurdistan qui serait unifié, est-ce que ce n'est pas une façade et qu'en réalité il y a beaucoup de différences entre les régions, entre des groupes kurdes? Est-ce qu'il y a une hiérarchie, par exemple, parmi les groupes kurdes, notamment en Turquie?
Il y a une différenciation aussi sociale dont on peut parler, enfin entre zone rurale et zone urbaine, entre, on va dire, une sorte de bourgeoisie intellectuelle, enfin ce dont je voulais parler un petit peu, qui sont ceux qui sont aussi présents à l'université, puisqu'on a ouvert des cours, des formations entièrement en kurde à l'université à Mardin, par exemple, à Diyarbakır, etc., qui, c'est une révolution à Akali. Donc à la frontière iranienne, on publie en kurde, on publie en turc, on publie en anglais, tout ça c'est très bien, mais c'est un petit peu de la façade d'une certaine manière, parce que je pense que la population n'est pas vraiment encore concernée. Il y a un problème d'unification de la langue, on n'a pas beaucoup parlé pour le kurmanje, les dictionnaires sont en cours, les méthodes de langue sont en cours, c'est une langue encore naissante, je dirais, une langue littéraire naissante, et du coup ça crée pas mal de problèmes aussi de communication. Tout le monde n'a pas le même idéal de réalisation de la kurdité et de probablement de ce qui sera enfin, de ce qui est déjà le Kurdistan, mais de ce que ça pourrait être.
Et d'un pays à l'autre, par exemple, entre la partie iranienne, dont on parle finalement
on en parle plus beaucoup.
Quasiment
oui.
plus, et dans d'autres régions qui apparaissent, comme la Syrie, le nord de la Syrie, ces groupes se sentent appartenir à la même communauté, ou ce sont des communautés un peu différentes qui vivent chacune leur vie?
Les Kurdes de Syrie sont assez proches de leurs voisins du sud de la Turquie, déjà géographiquement, et je pense, on va dire intellectuellement, sentimentalement, je ne sais pas très bien ce qu'il en est de leur rapport avec les Kurdes d'Irak, c'est déjà un petit peu plus loin. En tout cas, bon, je crois pas que leur grande préoccupation soit vraiment l'identité culturelle en ce moment, c'est plutôt la survie. Ça fait une grosse différence. Ce sont les zones en guerre et les zones quand vous êtes, je sais pas, à Sirt ou à Batman ou à Diyarbakır en ce moment, vous êtes relativement, je dis bien relativement tranquille.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Maria Fontapi, vous avez travaillé particulièrement sur la société civile kurde d'Irak. Vous étiez à Souleymaniye, notamment, on l'a dit dans la présentation. Et vous avez, vous, constaté un fossé grandissant entre les générations, les Peshmerga d'il y a 30 ans et les jeunes d'aujourd'hui. Qu'en est-il exactement?
Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la discussion s'il y a une kurdité, quelque chose qui met en commun tous les Kurdes. Je pense que il y a presque une contradiction, un paradoxe entre l'existence d'une identité presque virtuelle qui se fait aussi chez les médias, par exemple le fait que la bataille de Kobané a généré en termes d'extrême solidarité en fait entre tous les Kurdes. C'est un effet très grand, mais c'est un effet très médiatique qui est resté surtout à la surface de ce qu'on appelle social media. Mais en même temps, vous avez en fait, au contraire, quand on va en fait sur le terrain, vous avez en fait des clivages entre les zones en fait du Kurdistan, les différentes régions du Kurdistan, qui sont de plus en plus grandissantes. Par exemple, les jeunes des Syriens, les jeunes Kurdes des Syriens où on a dû migrer en fait au Kurdistan d'Irak, d'après les débuts de la guerre civile en Syrie, en fait, ils ne se sont pas vraiment intégrés au sein des villes du Kurdistan irakien. Donc, vous voyez en fait la différence et les paradoxes entre une identité, comme il a été déjà mentionné par Hocham et Timur, qui est en fait défensive. Donc, lorsque l'identité kurde est mise en danger, médiatiquement, et à travers les social media, il y a en fait un effet de solidarité qui se fait. Mais en fait, sur le terrain, cela devient de plus en plus compliqué. Donc, pour revenir à la question du clivage intergénérationnel, je pense, oui, bien sûr, en fait, il y a de plus en plus, surtout au sein de la région du Kurdistan d'Irak, un clivage générationnel entre les nouvelles générations qui, en fait, ont grandi au cours des années 90 et après 2003, et qui, en fait, ont grandi au sein d'une région qui était presque autonome et qui avait presque aucune connexion avec les centres Bagdad. Et, en fait, l'ancienne génération qui a combattu la lutte armée et qui, en fait, aussi avait quand même beaucoup plus de relations avec les centres Bagdad. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, cette nouvelle génération kurde, elle a, en fait, du mal à trouver un espace, à trouver son identité en soi au sein de la société kurde d'Irak. Parce que, en fait, l'ancienne génération qui se montre être la génération qui a, en fait, créé le Kurdistan d'Irak et qui a combattu pour ce Kurdistan d'Irak, s'impose encore comme dominante au sein de la sphère politique. Donc, vous voyez, en fait, les partis politiques d'Irak kurdes qui sont encore beaucoup dominés, en fait, pour les anciennes générations. Et aussi, cette nouvelle génération, elle trouve du mal à trouver, en fait, son espace au sein d'une société qui est encore, en fait, dominée par les valeurs et les principes de cette ancienne génération. Donc, il y aura, en fait, au Kurdistan d'Irak, prochainement, un clivage qui va, en fait, s'agrandir et qui, peut-être, s'aboutira avec, en fait, une démobilisation de la jeunesse qui ont déjà eu lieu, en fait, en 2011 dans la ville de Souleymaniyah.
Alors, un problème de génération dans la partie irakienne du Kurdistan, Hocham Daoud, ce n'est pas un problème de région riche, finalement, parce que, effectivement, il y a une certaine stabilité dans cette région, alors que, par exemple, on le disait il y a un instant, dans le nord de la Syrie, ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que ce problème de génération qui oppose les jeunes et les plus âgés au Kurdistan irakien, ce n'est pas un problème de riche, finalement, plutôt qu'un problème de fond?
Oui, il y a un peu de cela aussi. Il y a ville-campagne, il y a problème générationnel. Disons, la relation entre générations, ça traverse toute la société dans le monde. Hein. Mais il y a des spécificités au Kurdistan d'Irak. La spécificité, ça tient à cela. Que la vieille génération sont à eux qu'ils ont produit la nouvelle réalité. La plupart du temps, ils sont d'origine campagnard. Et ils prenaient les armes durant des années dans les maquis. Ils considèrent cette situation exceptionnelle, c'est le fruit de leur sacrifice. Donc, comme c'est une économie qui se base essentiellement sur la rente, c'est une économie qui pompe de l'argent qui vient quasiment sans beaucoup d'efforts, c'est du pétrole, et on distribue. Cette forme de recevoir et à distribuer, c'est créer un type de relation don contre don un peu, je dirais, asymétrique. Tandis que les jeunes, ils s'apparaissent dans la ville avec des relations modernes, avec des portables, avec de Internet, revendications, de musique nouvelle, de littérature, de discussions, etc. Tout cela, bien évidemment, avec les autres, il y a d'ailleurs des termes kurdes très, très intéressants à avoir. Elle dit, c'est le gros moustacheux qui descend de montagne. C'est une forme de désigner celui qui est en face. Donc tout cela, c'est vrai, ça rentre dans une forme de conflit qui traverse toute la société, mais ici, ça prend des colorations un peu particulières. Probablement, et avec des crises ou des secousse économique ou de fois même de malentendu politique, ça peut se transformer en forme de heurts. Maria, elle a eu raison de citer les manifestations qu'il y avait, surtout à Souleymaniyah hier, mais je crois que oui, c'est le pouvoir kurde a le droit de... le pouvoir kurde, il doit répondre à cette préoccupation.
Vous écoutez Géopolitique, le débat sur RFI. On marque une pause, le temps de prendre connaissance des dernières informations avec la rédaction.
Géopolitique. Éric Bataillon.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour parler du Kurdistan avec en studio Cham Daoud, anthropologue au CNRS, spécialiste de l'Irak, Timur Muhyiddin, professeur de littérature turque à l'INALCO à Paris, et par téléphone depuis Istanbul, Maria Fontapi, analyste à l'International Crisis Group. Dans la première partie de l'émission, nous avons abordé la question de l'identité kurde et des tensions qui existent bel et bien entre les communautés kurdes, qu'elles soient syriennes, turques ou irakiennes. Voyons maintenant les questions plus politiques, notamment la grande question des autonomies de ces régions kurdes et le rôle stabilisateur de la région que pourrait avoir le Kurdistan. Au Cham Daoud, on constate évidemment des différences criantes entre les régions kurdes. Pour le moment, seul le Kurdistan irakien présente les caractéristiques d'un État, aidé en cela par la rente pétrolière. Cette région vous paraît-elle viable en cas d'indépendance?
Disons qu'il y a un volontarisme kurde pour s'affirmer un peu plus et accéder peut-être à l'indépendance. Le grand obstacle, il y en a plusieurs. La plus grande, c'est interkurde. C'est justement la maison kurde qui n'est pas unie autour de cette revendication. Si la jeune, comme rappelait Maria tout à l'heure, la population, et c'est normal, un sentiment normal, ils sont tous pour l'indépendance, ils pensent que le clivage politique est tellement conflictuel que ça peut terminer comme ça passait dans les années 90 vers une guerre fratricide entre les deux formations politiques au pouvoir aujourd'hui, il y en a trois d'ailleurs, entre celui de Jalal Talabani qui était l'ex-président de l'Irak et Massoud Barzani, le président. Et d'ailleurs ce jour-ci...
Et la troisième qui est
Goran qui est aujourd'hui une scission de parti de Jalal Talabani qui se trouve comme deuxième force locale.
Et qui vient du terrain.
Donc il y a cette volonté, mais à la fois le Kurde, chaque fois il devient réaliste. D'accord, nous voulons l'indépendance. Comment peut-on protéger l'indépendance dans une région aussi hostile? L'Iran qui se trouve à l'est, la Turquie au nord, l'Irak arabe peut-être. Curieusement, c'est les Arabes irakiens qui sont le plus enclins d'accepter l'indépendance. Et comment ça va passer? Et comment on va vivre? Nous sommes bloqués. Est-ce qu'on va pas devenir quand même un jardin protégé par la Turquie toute-puissante qui se trouve au nord? On le voit à la volonté d'Erdogan. Et puis on voit la proximité par rapport au pétrole, l'industrie. Aujourd'hui, le Kurdistan est divisé en deux parties. Le Kurdistan d'Irak. Une partie qu'il se trouve plus ou moins proche de Bagdad et d'Iran. C'est la partie contrôlée par Jalal Talabani et Goran. Et la deuxième partie, qui est à partir d'Erbil jusqu'à Dohok et Zaho, c'est presque devenu comme une terre de la partie chypriote turque, qui dépend totalement de l'économie turque, totalement de la mainmise de l'État turc, totalement même de la présence, je dirais, même sécuritaire, etc., etc. Dans cette condition-là, faut-il aller vers une indépendance qui soit un peu moins tout à fait subordonner la Turquie ou garder quand même une telle autonomie quasiment étatique à l'intérieur d'un Irak qui l'accepte la pluralité à l'intérieur. La question se pose. Deux fois, on parle trop de l'indépendance à l'intérieur de Kurdistan d'Irak, mais il me semble que c'est une fuite en avant et pas pouvoir répondre à certaines questions d'actualité aujourd'hui.
Est-ce que cette indépendance serait viable? Est-ce que la région autonome pourrait être un État avec toutes ses prérogatives,
aujourd'hui,
et notamment commerciales et économiques?
Aujourd'hui, non. Sincèrement, non.
Le pétrole ne suffit pas.
Écoutez, le pétrole ne suffit pas. Et il y a à peine 8 mois, le baril de pétrole, ça a été à $110. Aujourd'hui, il se trouve, le pétrole irakien, autour de 45 à 50. On parle autant de pétrole kurde, mais il n'y en a pas autant. Il faut être réaliste. On a des estimations et non pas des données réelles. Donc, il y a d'investigations sur le terrain. Et puis, le pétrole kurde, produire de pétrole kurde, ça coûte beaucoup plus cher que produire le pétrole dans le sud de l'Irak. Il y a une quantité de réserves dans le sud de l'Irak et beaucoup plus supérieure à celle de Kurde. Peut-être, ils sont sur le plan de pétrole, c'est avantageux pour eux de rester à l'intérieur de l'Irak. Deuxièmement, on parlait de Peshmerga, vous avez cité Peshmerga. Soyons réalistes. Il y a 4 corps armés au Kurdistan d'Irak. Il y a un ministère de Peshmerga qui gère à peine 20 à 25% de nombre de combattants kurdes. Le reste, ça dépend quasiment de chaque parti politique distincte. Et à l'intérieur de chaque corps, il y a ce qu'on appelle de forces d'élite. Donc, les Kurdes, ils doivent commencer par harmoniser tout cela. 3, ils sont des relations avec des pays autour très différentes. Les Sulaymaniens avec l'Iran, presque 8 à 10 milliards de dollars d'échanges avec l'Iran. Le parti d'Erbil jusqu'à Dohok avec la Turquie autant. Donc il faut aussi harmoniser ce niveau-là. Puis ils n'ont pas le même regard par rapport aux pays de la région. Massoud Barzani avec la Turquie, Jalal avec l'Irak, etc., etc. Donc tout cela, il faut arranger la maison kurde à l'intérieur, avoir un accord qui soit accepté avec les pays d'autour, et puis avoir un contexte international qui accepte. Après tout, on peut être minoritaire à l'intérieur d'un pays mais plus fort, sans être nous-mêmes un groupe ethnique distinct à l'extérieur, mais beaucoup plus faible.
Maria Fantapi, lorsqu'on est à Erbil ou à Souleymania, deux villes où vous êtes allé fréquemment au Kurdistan irakien, est-ce que les gens que vous avez rencontrés, notamment les jeunes parmi lesquels vous avez conduit un certain nombre d'entretiens, se préoccupent des Kurdes des pays voisins ?
Pas forcément, en fait, la préoccupation, surtout chez les nouvelles générations, on voit ce phénomène assez paradoxal, où d'un côté, en fait, il y a cet appel à l'indépendance du Kurdistan et à l'identité kurde, à laquelle on fait appel à travers en fait, les social media, mais en même temps, on se préoccupe très peu de ce qui se passe autour d'eux, en fait. Donc, au contraire, on trouve que chez les jeunes, il y a de plus en plus un ancrage dans les identités locales. Donc, il y a de moins en moins, en fait, de mobilité entre les jeunes kurdes, par exemple, de Dohuk, qui c'est une troisième ville au nord du Kurdistan irakien, et qui, en fait, très peu, ils vont visiter une autre ville du Kurdistan, comme Souleymania, qui se trouve, en fait, à 3 heures plus de voiture. Il y a des gens qui n'ont jamais visité, en fait, Souleymania, qui sont de Dohuk. Donc, juste pour vous donner un exemple. Donc, il y a de plus en plus, en fait, un ancrage local qui se fait chez les nouvelles générations. La question de l'indépendance du Kurdistan, je voulais ajouter à ce que Rocham a mentionné, c'est très important aussi de dire que cette indépendance, en fait, l'obstacle le plus important, je pense, c'est, comme Rocham a mentionné, un obstacle régional. Je pense que la Turquie et l'Iran, dans des façons différentes, toujours ils sont d'accord dans le fait d'empêcher l'aboutissement de cette indépendance. La Turquie le fait à travers un chemin de patronage économique au sein du Kurdistan d'Irak. L'Iran le fait à travers une influence politique qui aussi, d'après la bataille de l'État islamique, devient de plus en plus puissant en fait, au sein de l'Irak et au sein du Kurdistan, de l'espace kurde lui-même. Et donc, ça, ces deux acteurs régionaux sont, en fait, vraiment un des plus importants à l'aboutissement de l'indépendance. Mais en même temps, vraiment, les problèmes restent aussi au sein des Kurdes eux-mêmes. Il y a vraiment un problème de manque d'institutionnalisation chez les Kurdistan d'Irak. Les pétroles ne suffisent pas, non seulement ça, il y a vraiment un manque en fait des politiques institutionnelles. Rocham a mentionné la question des Peshmerga qui sont très divisés à son sein et qui en fait ne sont pas jusqu'aujourd'hui vraiment une force militaire professionnelle organisée.
Timur Medin, une question concernant justement, puisqu'on parle beaucoup du Kurdistan irakien, on oublie un peu trop le Kurdistan turc. Or, c'est en Turquie que se trouve la plus grande population kurde. Est-ce qu'il y a une singularité des Kurdes de Turquie ? Est-il envisageable que cette vaste zone habitée par les Kurdes puisse éventuellement rejoindre une sorte d'État naissant autour du Kurdistan irakien ?
Ça, c'est vraiment un sujet très délicat et il faut dire que, bon, en Turquie, il y a un héritage très douloureux par rapport l'identité kurde et au groupe kurde qui a été très largement nié jusqu'au début des années 2000. Bon, ensuite, petit à petit, on a donné des miettes, la langue, la télévision, l'enseignement.
Il faut dire que les Kurdes eux-mêmes ont adhéré à la République turque.
Et certains d'entre eux adhèrent toujours. Il y a une sorte d'intégration possible. D'ailleurs, c'était une sorte d'intégration sociale. Pour réussir en Turquie, il fallait devenir tout à fait turc, entre guillemets. Donc, citoyen de Turquie d'origine kurde, c'était pas gênant, mais bon, il fallait pas trop insister. Alors, on parle parfois de fédération turco-kurde, mais à l'intérieur du territoire, parce qu'il n'est pas question de vieux fantasmes de séparer le territoire national turc. Régulièrement, il y a des ouvertures du président Erdogan, mais bon, tout ça est un petit peu superficiel, c'est-à-dire que c'est une façon de donner une poire pour la soif. Je pense que personne, en tout cas dans le gouvernement turc, n'a envie d'un rapprochement et d'un Kurdistan indépendant.
Néanmoins, le PKK, qui est la force kurde principale et la plus ancienne en fait en Turquie, essaime à essaimer en Syrie, en Iran et en Irak, si je ne m'abuse.
Oui, particulièrement en Syrie, puisqu'ils étaient basés à Damas pendant de nombreuses années. Öcalan était à Damas. C'est d'ailleurs un autre sujet, disons, de conflit. Je crois que ça ne suffira pas, parce que le PKK est encore comme ça, un air un peu embourgeoisé maintenant, bien que son dirigeant soit en prison, il donne un petit peu les instructions pour le rapprochement, l'ouverture, etc. Mais c'est plutôt le jeune parti HDP hein, qui maintenant donne le ton, et qui va donner le ton aux prochaines élections.
Hocham Daoud, est-ce que les frontières sont immuables, c'est-à-dire que on voit bien que le Kurdistan s'étage sur 4 pays principaux, mais ces frontières qui coupent ce territoire sont bien réelles, et on a l'impression qu'elles ne sont pas prêtes de tomber, en fait.
Oui, la frontière, ils ont un siècle derrière elle. Donc, ça peut faire un siècle, on a façonné de culture, de traditions, de populations, de stratégies. Et je dois corriger certaines choses, parce qu'en France, on le voit plus qu'ailleurs. On parle trop de Saxe-Picot. C'est un peu, je dirais, un peu imposture. La frontière actuelle, c'est pas issue de Saxe-Picot.
Non, c'est l'accord du début du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, c'est en 1916, deux diplomates français et anglais, ils se trouvent et ils proposent de découper la dépouille de l'Empire ottoman après la guerre entre les deux puissances, associant la Russie avant la révolution bolchevique et l'Italie les autres. Or, si on voit la carte aujourd'hui, c'est rien à voir avec ce qui était imaginé et projeté. En vérité, l'occupation de Daesh, la revendication actuelle, si ça aboutit, ça reviendra exactement, si vous comparez les deux cartes, avec ce qui était imaginé à Saxe-Picot. En fait, l'idée un peu sous-jacente, cachée, c'est de appliquer Saxe-Picot un siècle après. C'est ça l'idée au fond. Maintenant, je dois dire autre chose. Qu'on fait bouger la frontière, on le revise, pourquoi pas, ça passe ailleurs aussi, c'est une revendication légitime, le Kurde, il constitue 35-40 millions, c'est une des nations la plus grande qui est sans État, sans institution, tout à fait légitime. Encore une fois, il faut qu'il soit des conditions requises pour cela. Moi, je suis de ceux qui voient, qui j'étais sur le terrain 4 ans, je viens rentrer, et il faut que ça commence par la maison kurde même. Et puis, il faut avoir une possibilité de discuter avec les pays de la région. Je crois au niveau international, il y a une acceptation maintenant pour l'idée d'un État kurde. Mais c'est un processus et non pas quelque chose qui est à arracher. Troisième chose, le Kurde, même en Irak, c'était pas quelque chose qui était négocié avec l'autre, c'est quelque chose qu'on a bénéficié de la collapse, presque de l'effondrement de l'État irakien. Donc ça aussi, ça pose un problème. À ce moment-là, comment on va négocier avec les autres, qu'ils se soient consensuels et non pas conflictuels? Nous sommes pas d'accord sur ce qu'on appelle les zones discutées, nous sommes pas d'accord avec les pays de la région, nous sommes pas d'accord avec, etc., etc. Donc, il faut que ça se passe dans une négociation, surtout dans cette région-là, tellement complexe, il y a chevauchement chiite sunnite, il y a arabe perse, il y a arabe turc, arabe kurde. Et il faut arriver à quelque chose qui soit acceptable. Je crois, le Kurde, dans chaque état, maintenant il y a un héritage d'un siècle d'histoire, se sont intégrés dans la culture locale, dans l'économie, dans une physionomie locale. Il faut améliorer, ce qu'il a dit Maria tout à l'heure, la côté institutionnel. Il faut donner droit davantage aux citoyens. Il faut reconnaître la diversité du groupe. Et je crois, à partir de là, après, on peut négocier, ça viendra naturellement, si on reste dedans ou non. Le droit à l'autodétermination, c'est légitime, reconnu. Je crois, les Kurdes, ils n'ont pas intérêt aujourd'hui d'ouvrir un front avec 4 États aussi puissants. Et il faut consolider ce qu'ils ont acquis et aller vers un peu plus, un peu plus tard.
Timur Muhyiddin, en 2012, le gouvernement turc de Tayyip Recep Erdogan reconnaissait pour la première fois, officiellement en tout cas, la présence d'une identité kurde en Turquie. Est-ce que c'est les prémices pour l'éventuelle création d'une région autonome kurde en Turquie, ou n'est-ce qu'un élément de l'histoire?
Non, c'est peut-être un petit peu plus qu'un élément de l'histoire, c'est dans une politique plus large de reconnaissance de la multiplicité anatolienne en réalité, ce qu'on appelle la mosaïque. On peut considérer aussi que c'est une sorte de choix politique plus facile pour satisfaire les Assyro-Chaldéens, les Yézidis, les Kurdes, les Tcherkesses, etc., les descendants d'Arméniens, puisqu'on a beaucoup parlé d'eux cette année. C'est très bien, puisque ça produit d'une part une sorte d'enseignement, d'accès à la langue, une production aussi littéraire, artistique, tout ça est très bien. Mais l'étape suivante, qui serait une sorte d'indépendance ou de semi-indépendance politique, ça me paraît pas possible. En fait, on demande aux citoyens kurdes aussi d'être des bons citoyens de Turquie. Et pas d'être... Il y a une limite qui serait l'indépendance, on va dire, culturelle, l'autonomie culturelle.
Et le mois prochain, début juin, je crois, il y a des élections législatives en Turquie.
Voilà, le 7 juin.
Le 7 juin. Et les candidats kurdes qui s'étaient présentés aux dernières élections sous des étiquettes indépendantes, cette fois vont se présenter sous l'étiquette
du HDP,
donc kurde. Ouais. Et apparemment, les sondages ne leur sont pas très favorables. Donc montrer son identité, c'est peut-être contre-productif sur le plan politique.
Il y a deux versions, oui, du point de vue global, peut-être 20 ou 30 députés, c'est ce qu'on imagine. Mais en réalité, dans les zones kurdes, ça risque d'être quand même un raz-de-marée, parce que c'est un parti plus tentant. Il est très, enfin, il y a des choses extraordinaires dans ce jeune parti. Je ne sais pas si tout est tout à fait vrai, mais en tout cas très humaniste, très ouvert. C'est très étonnant, parce que le PKK n'était pas comme ça. De toute façon, il était interdit. Moi, je trouve que c'est plutôt positif, en fait, cette perspective-là.
Maria Frantapi, pour autant que vous avez pu en juger lors de vos déplacements à Erbil au Sulaymaniyah, est-ce que la région autonome vous a semblé, au Kurdistan irakien, vous a semblé calme et sa vie quotidienne normale? Est-ce que ça vous a semblé un lieu de stabilité, le Kurdistan irakien?
Oui, en fait, on trouve encore une fois un paradoxe, parce que la vie quotidienne se déroule de manière tout à fait presque, tout à fait normale. Et donc, il y a cette sensation de stabilité, de calme, qui est tout à fait en contraste avec ce qui se passe à demi-heure de voiture de la ville d'Erbil, où vous avez les fronts de bataille contre l'État islamique. Donc, c'est un contraste très fort au niveau spatial, mais c'est aussi un contraste, je voudrais dire, il y a aussi un contraste politique, parce qu'en fait, la calme de la vie quotidienne contraste avec les troublements et l'espace politique kurde au sein de la région kurde du Kurdistan de l'Irak est en train de, en fait, passer. Il y a beaucoup de divisions qui sont en train de se multiplier au sein de la leadership des partis du KDP, des partis de Masoud Barzani et les partis des Taliban et l'Union patriotique du Kurdistan. Et de plus en plus, ces partis traditionnels sont en crise. Et il y a de plus en plus, en fait, d'interférences régionales qui se passent, justement, face à cette fragmentation de la leadership kurde, surtout des côtés de l'Iran. Donc, il y a un vrai, en fait, des contrastes, un vrai paradoxe entre cette calme de la vie quotidienne et l'espace politique qui est vraiment en crise en ce moment.
Hocham Daoud, cette impression que l'on a de l'extérieur, en tout cas, que le Kurdistan apparaît comme une zone finalement assez stable dans ses montagnes, si on peut dire, face à un environnement qui est quand même extrêmement d'abord militarisé, l'action du groupe État islamique en Irak et en Syrie, la guerre civile en Syrie. Est-ce que cette impression de stabilité du Kurdistan n'est finalement pas un leurre, comme nous le rappelle Maria Frantapi, dans la mesure où, au plan intérieur, les institutions kurdes sont elles-mêmes assez instables, finalement.
Sur le plan sécuritaire, il y avait relativement une stabilité, si on compare ce qui se passe en Irak, en Syrie, etc. Et c'est vrai. Le Kurde, il vivait quasi indépendamment depuis un quart de siècle. Ils ont érigé leur structure politique, leur reconnaissance avec le monde extérieur, ils étaient indépendants. Un quart de siècle, il n'y a pas ni institution, ni présence officielle irakienne. Et puis, il y avait cette compréhension, tout d'un coup, internationale à partir de 91, après la guerre de Koweït. Donc, tout cela, ils l'ont positivé. Mais ils l'ont positivé dans un sens simplement fixer la sécurité, repartir le pouvoir et repartir la rente. De là, ils n'ont pas travaillé sur la structure politique, juridique, institutionnelle, la participation, ce qui fait la démarche dans sa globalité reste réversible. Et ce serait dommage, parce que c'est la première fois dans l'histoire des Kurdes, ils ont un tel seuil acquis, ils ont atteint, il faut pas qu'ils recul en arrière, ça entre les mains.
Timur Mudine, l'instabilité en Turquie également existe et paradoxalement c'est du côté kurde plutôt que du côté turc.
Oui, puisque la partie ouest du pays est relativement tranquille, enfin la vie se déroule normalement. Malgré tout, la sale guerre de l'armée turque contre le PKK a laissé des traces. Il y a encore pas mal d'agitation dans les provinces à la frontière iranienne, irakienne et syrienne. Mais malgré cette instabilité, bon, les jeunes kurdes, je voudrais dire ça peut-être pour terminer, sont très attachés, au moins sentimentalement, à cette kurdité. Je le lisais récemment dans un ouvrage de témoignage sur des jeunes combattants. Un kurde pense aux autres.
C'est la fin de cette émission consacrée au Kurdistan au pluriel. Merci à nos invités. Maria Frantapi, analyste senior à l'International Crisis Group, en ligne depuis Istanbul. Hocham Daoud, anthropologue au CNRS à Paris, spécialiste de l'Irak. Et Timur Mudine, professeur de littérature turque à l'Institut des langues et cultures orientales à Paris, tous deux en studio. Merci également à Nathalie Laporte qui a mis en onde cette émission et à Véronique Durand pour son aide précieuse dans la préparation de ce débat. Samedi et dimanche prochain, vous retrouverez Marie-France Chatin à ce même micro. En attendant, bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.